À tout moment, il y a près de 1500 extraterrestres sur notre planète, presque tous ici à Manhattan. Ils sont presque tous convenables, ils ne cherchent qu'à se faire un peu de blé.
Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là.
Avez-vous déjà mis hors service un humain par erreur?
Non. Vous savez ce qui fait le plus peur dans la vie? Ne pas savoir votre place dans ce monde. Ne pas savoir pourquoi vous êtes ici.
Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme.
Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection.
Science, friction. Science Friction, une émission d'Alain Vattier et de Jean Ibanez sur Divergence FM. Eh bien, bonsoir à vous, bonsoir Alain.
Bonsoir tout le monde, bonsoir Jean.
Donc ce soir, on va travailler un petit peu, réfléchir un petit peu sur un film, mm-hmm. un film d'un Canadien, un Québécois.
Un Québécois,
un Québécois,
oui. Denis Villeneuve.
Denis Villeneuve, un film qui a pour titre...
Premier Contact.
Premier Contact. Alors Alain... Premier contact, ça raconte quoi, en fait?
Ben, ça raconte l'irruption de 12 vaisseaux répartis sur l'ensemble du globe qui se sont suspendus en l'air à quelques mètres et qui provoquent une espèce de panique générale dans le monde entier. Tout le monde se demande ce que veulent bien ces extraterrestres, d'où viennent ces vaisseaux et quels sont leurs objectifs. Et on suit surtout ce qui se passe dans le Montana, en fait, en Amérique, puisqu'un des vaisseaux, donc c'est fixé dans le ciel, dans le Montana, et l'armée embauche une espèce, on appelle ça une spécialiste de linguistique comparée, tout à fait, ouais, pour essayer d'entrer en contact avec les fameux extraterrestres, d'essayer de comprendre leur langage s'ils en ont un, et donc savoir qu'est-ce qu'ils veulent.
Communiquer
avec eux, ouais.
Alors. C'est un film, on peut dire quand même que c'est un film assez étrange quand même. Hein. Mm-hmm. C'est ce qui fait que, en fait, on n'est pas déçu par rapport à la science-fiction, hein, puisque en effet, on est un peu perturbé, un peu dérouté. Alors, on va essayer de voir un petit peu, voilà, ce qui fait le charme de ce film, qui est vraiment un très beau film. Il faut le reconnaître. Alors, une des qualités du film, déjà, je crois, on en a parlé hors antenne, Alain, c'est que le cinéaste, il en fait pas trop.
Non, c'est plutôt effectivement, même les acteurs sont toujours dans la retenue. Il n'y a pas vraiment de pathos, même s'il y a des moments assez durs émotionnellement. Il n'y a rien de vraiment spectaculaire ou d'explosif. Enfin, on n'est pas dans les effets. On reste toujours un peu dans un niveau, comment je pourrais dire, enfin, c'est un niveau réaliste, on va dire. Enfin, il n'y a pas d'exagération. On est vraiment dans quelque chose d'un peu neutre, en fait.
Oui, puis on est dans plus l'évocation que l'invocation.
C'est sûr. Et en plus, on ne prend pas les spectateurs pour les imbéciles. C'est-à-dire qu'on ne vient pas aussi surligner les moments tragiques par des musiques tout aussi tragiques ou ce genre de choses. Quoi.
Voilà.
La musique est quand même présente, mais est quand même très discrète. Et elle est à des moments très particuliers dans le film. Elle n'est pas tout le temps comme ça. C'est souvent dans les films hollywoodiens. On a une espèce de musique omniprésente qui noie complètement tout. Et c'est insupportable, enfin à mon sens en tout cas.
Alors ça fait, en effet, c'est la qualité du film, elle est là, c'est-à-dire qu'en effet, ça se joue à des fois, voilà, pas grand-chose dans un film pour que, en fait, on n'accroche plus, ou au contraire, ça fonctionne et qu'on est comme suspendu. Hein. Mm-hmm. Donc on va voir que ça joue beaucoup sur ça. Alors... ça nous raconte donc l'arrivée, hein, comment il s'appelle le titre en anglais?
Arrival, c'est le titre anglais, le titre québécois c'est l'arrivée.
L'arrivée, hein. L'arrivée donc de ces extraterrestres, tu disais 12 vaisseaux. Donc il y en a un aux États-Unis, il y en a un en Chine.
Ouais, ben ça, au Pakistan.
Voilà. Donc... Alors après, on peut se demander pourquoi il a choisi tel ou tel pays plutôt que tel ou tel autre.
Hein. Ah ben c'est toute la question que se posent justement les humains. Ils ne comprennent pas la logique de la disposition des vaisseaux. Ils ne voient pas quelle logique a prévalu pour que les vaisseaux se posent là, là, là ou là. Effectivement, c'est un élément qui échappe à la compréhension des humains qui sont confrontés à ce phénomène. Et nous aussi d'ailleurs.
Oui, alors ils ne comprennent pas parce qu'ils sont dans de la géopolitique ou dans des repères qui sont fondamentalement spatiaux hein, ou géographiques.
Oui, terrestres. Oui.
Terrestres, on va dire. Alors que peut-être, et c'est ce qu'on va voir, hein, on va y revenir, on va voir que nos amis extraterrestres, je dis nos amis parce qu'en fait ils n'arrivent pas de manière guerrière. Hein, ils viennent proposer au contraire des choses. Je suis en train de spoiler le film pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et donc, nos amis extraterrestres, eux, ils sont dans un autre rapport à l'espace que les terriens, puisqu'ils sont dans un autre espace-temps.
Oui, tout à fait. Hein.
Et en fait, évidemment, nous, pauvres terrestres, nous sommes prisonniers du temps et surtout du temps présent. D'accord. Et eux, ils ont la capacité d'anticiper,
oui, ils ont la capacité effectivement de pouvoir déjà deviner ce qui va se passer dans le futur. On apprendra d'ailleurs que c'est la raison qu'ils sont venus sur Terre pour proposer un espèce d'échange avec les humains, c'est parce qu'ils auront sûrement besoin des humains dans un lointain futur.
Voilà.
Ils le savent déjà, donc ils sont venus préparer leur prochaine rencontre en quelque sorte, qui aura lieu dans 2 ou 3 millénaires.
Voilà, oui, un lointain futur, 3 000 ans. Hein.
3 000 ans.
C'est un lointain futur, en tout cas pour nous. Peut-être que pour eux, c'est la semaine prochaine.
Possible.
D'accord, mais pour nous, c'est un peu loin. Mais en même temps, malgré tout, même si dans ce lointain futur, eux auront besoin des hommes, en tout cas, en fait, les hommes dans ce présent très proche, hein, d'accord, ont besoin des hectapodes. Qui vont leur permettre en quelque sorte de peut-être pouvoir sortir de conflits.
Hein, ouais, tout à fait.
Hein, de conflits.
C'est une des raisons pour lesquelles, justement, on comprend dans le film, les vaisseaux se sont disposés à 12 points du globe différents. C'est pour justement obliger toute l'humanité à s'associer, à s'allier.
À coopérer.
À coopérer pour pouvoir obtenir ce que les aliens sont venus leur amener.
Voilà. Alors bon, après nous, on peut travailler sur notre symbolique très terrienne et très terrestre du chiffre 12. Hein.
Ouais, hein, le cycle complet.
Voilà, c'est ça. Les 12 mois de l'année, etc. Et bon, après, il y a quelques-uns qui diront les 12 apôtres, mais je sais qu'Alain, que ça ne te plaira pas trop.
C'est sûr.
Toi, l'athée.
Qui est Jésus dans cette histoire
hein. Voilà. Hein. Donc, on revient sur cette question-là qui est intéressante parce que, en effet, c'est quand même malgré tout ce qui est intéressant, c'est que ce 12 peut nous renvoyer au temps. Mm-hmm. Hein, et qu'en effet, ça vient en quelque sorte. On va voir que ces vaisseaux vont perturber, en fait, les repères spatio-temporels des humains. Et leur permettre justement de pouvoir reconfigurer leur conflit.
Hein. Complètement.
En tout cas, leur rapport.
Leur rapport de force, mais ouais. Le rapport de force qu'il y a entre les différentes nations, oui, effectivement. Ils vont être obligés de s'allier.
Ouais.
Et c'est tout l'objectif des extraterrestres.
Alors,
et ça, on comprend que petit à petit.
Oui. Alors,
problème.
Voilà.
Voilà, on a tout dit là en fait, on a tout
spoilé. Non.
Je veux dire que...
Oui,
voilà.
Enfin, on a dit en tout cas les grandes lignes, parce que en fait, ce qui fait le charme du film, en fait, c'est tout ce qui se dit pas, hein, tout ce qui n'est pas dit, que nous, chacun de nous, on va pouvoir projeter, ce qui fait la qualité du film d'ailleurs, hein, c'est que justement, le film va ouvrir des espaces.
Mmh. Hein,
des espaces dans lesquels on imagine peut-être d'autres choses que notre voisin. Ça, c'est pas mal, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est un film qui est intelligent et qui rend intelligent.
C'est pas un film à thèse, oui, c'est sûr.
Voilà, hein, film intelligent qui rend intelligent. C'est-à-dire qui, en quelque sorte, ne nous dit pas ce qu'on doit penser, hein, qui nous amène à penser, à réfléchir,
à
se poser des questions. Et tout ceci assez, on le disait, délicatement. D'accord,
oui, hein, tout à fait.
Avec une forme de délicatesse. Vraiment, je dois dire que Denis Villeneuve, bravo. Je ne sais pas s'il nous entend ou s'il nous entendra. Mais en tout cas, bravo. C'est un film très délicat et fort intelligent. Alors, maintenant qu'on a sorti nos fleurs et on va pouvoir sortir les fruits. Alors, Alain, c'est la rencontre donc des humains et des extraterrestres. Alors, ce n'est pas n'importe qui, en fait, qui vont pouvoir vraiment les rencontrer. Mm-hmm. Hein, parce qu'on voit quand même que les premiers qui répondent ou qui réagissent en quelque sorte, à la venue de ces extraterrestres dans les différents pays, c'est les militaires.
Oui, bien sûr.
Voilà, ouais. Tout de suite, les militaires. Bon, après, je ne suis pas antimilitariste, comme certains.
Oui, mais enfin, ils le font aussi, eux aussi, avec retenue. Ils ne vont pas directement... Ils vont pas directement attaquer les extraterrestres. Ils se mettent en position pour essayer de savoir, enfin, au cas où, s'il fallait réagir rapidement. Mais leur premier réflexe, c'est quand même d'essayer d'entrer en contact avec eux, pas de leur tirer dessus.
Ouais. On va écouter une petite musique.
Ok. Na 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 oh oh na 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 oh oh um 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 oh oh na 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 oh oh na
sur Divergence FM 93.9 et vous écoutez l'émission Science Friction. Alors Alain, on vient d'écouter une musique de
Meredith Monk, ça s'appelle Double Fiesta. On entend un petit bout dans le film d'ailleurs qui ensuite se superpose à un autre morceau et qui vient s'intégrer à un autre morceau.
Alors le film dont nous parlons, pour ceux qui viennent de prendre l'antenne, c'est donc Premier Contact du Québécois Denis Villeneuve. Un très beau film dont nous sommes en train de parler. Alors Alain, on était en train de parler de ce premier contact, c'est ouais. Le cas de le dire, puisque c'est le titre du film, entre ces humains et ces extraterrestres. Et on parlait, juste avant le petit morceau de musique, de ce premier contact entre les militaires et ces extraterrestres. Mm-hmm. Hein, donc, en effet, il n'y a pas tout de suite immédiatement une réponse offensive, puisque, en fait, ces extraterrestres n'attaquent pas, en fait.
Non, ils sont suspendus dans l'air à quelques mètres. Voilà. Et c'est un immense vaisseau qui fait 500 mètres de haut.
500 mètres.
Ouais.
Et il y en a 12 quand même, 12 vaisseaux de 500 mètres, ouais. Et les mêmes.
Qui sont posés verticalement.
Voilà.
Et qui attendent. Voilà, ils attendent. Et effectivement, les militaires arrivent et encerclent.
La zone.
Voilà, et essayent d'entrer en contact avec les extraterrestres. Quoi.
Alors, en fait, le film raconte qu'on vient. Les militaires viennent chercher donc le docteur.
Banks. Louise Banks.
Louise Banks, parce qu'elle est spécialiste donc...
Linguistique comparée.
De linguistique comparée, parce qu'il pense qu'elle va pouvoir décrypter leur langage pour pouvoir communiquer avec eux. Alors, en répétant à chaque fois, le film revient sur ça, pourquoi ils sont là,
C'est ça, c'est la question.
Qu'est-ce qu'ils veulent ?
Voilà, c'est la question.
D'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils veulent ?
Surtout la question, qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Intéresse les militaires.
Voilà, parce qu'il voilà. Après, c'est inquiétant. Hein. Et on peut imaginer si on avait un vaisseau comme ça au-dessus de Montpellier de 500 mètres, d'accord, on pourrait se poser des questions.
Ah ben oui, c'est sûr.
On sera en droit de se poser des questions en se demandant si finalement on n'est pas là.
Si on n'est pas menacé.
Voilà, si on n'est pas dans un scénario de fin du monde. Hein, ça ferait plaisir à tous nos amis collapsologues. Hein, c'est la grande mode aujourd'hui, la collapsologie. Hein. Donc, on revient sur ces militaires. C'est assez étonnant. Alors, je ne suis pas sûr, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Alain, mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, s'il y avait, par exemple, des vaisseaux comme ça qui rentraient dans l'espace aérien de la Chine, des États-Unis, de la Russie, etc., qu'on ne leur tire pas dessus.
De suite, comme ça, ouais. En train de jeu
Est-ce qu'ils ont demandé la permission ?
Non, ils n'ont pas demandé la permission. Ils sont arrivés. Apparemment, ils sont apparus soudainement, tout d'un coup. Ils sont là.
Ils sont là.
La même façon qu'ils disparaissent d'ailleurs. À la fin du film, ils disparaissent. Tout d'un coup, ils s'évanouissent.
En fait, ils n'ont pas eu besoin de demander la permission parce que, en fait, ils n'ont pas traversé l'espace aérien. Ils sont apparus dans l'espace.
Dans l'espace-temps, oui.
C'est
un jeu dans l'espace-temps.
Hein, donc, on va voir que cette question-là est fondamentale dans le film. Hein. Hein, ils n'ont pas traversé l'espace. Ils ont traversé l'espace-temps.
C'est ça. Alors,
on est vraiment là dans la science-fiction la plus pure, en quelque sorte. Hein. C'est ce qui est d'ailleurs extrêmement troublant dans le film. On va y revenir. Donc, ces militaires viennent chercher le docteur Louise Banks et ils vont la chercher en hélicoptère, la nuit.
En urgence.
En urgence. Et ils l'amènent sur le site où se trouvent donc les militaires autour de la zone, en quelque sorte.
Ouais.
Hein. Alors,
Coque, comme ils l'appellent.
Ouais.
Le vaisseau, ils l'appellent la coque.
La coque, ouais. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que ça ressemble un peu à une coque, non ?
Oui, c'est complètement lisse, c'est un peu bombé. Il n'y a pas d'ouverture, enfin quasiment pas, il y a juste celle pour pouvoir entrer.
D'ailleurs, on va revenir sur cette forme, parce que cette forme pose en effet problème. Hein. On va y revenir. En tout cas, ils vont chercher Louise Banks pendant la nuit, et donc ils l'amènent dans ce centre militaire.
Hein. Un camp improvisé.
Voilà, et... elle va retrouver un autre, en fait, un autre scientifique qui est là.
Hein, c'est Ian Connolly.
Voilà, c'est Ian Donnelly.
Donnelly.
Hein, qui, lui, est un scientifique.
Oui, un physicien.
Un physicien, plutôt du côté des mathématiques que de la linguistique.
Tout à fait. Hein.
Et donc, ils vont être amenés tous les deux à communiquer. On va les amener pour communiquer. Dans le vaisseau
hein. Qui s'ouvre 2 heures toutes les 18 heures.
Voilà, 2 heures toutes les 18 heures. Là encore, les questions de temps sont importantes et les questions aussi de timing sont importantes. Alors, il y a évidemment la paranoïa, la peur que peut inspirer donc la présence, la venue de ces extraterrestres. Hein. Et ils sont préparés tous les deux par les militaires, que ce soit Louise Banks ou Ian Donnelly, ils sont préparés pour au cas où il y aurait des radiations, des combinaisons spéciales, au cas où les extraterrestres apporteraient des maladies, etc. Hein, donc ils doivent en quelque sorte entrer en contact avec des extraterrestres, mais ils sont tellement, comment on pourrait dire, revêtus
de l'extérieur,
coupés de l'extérieur, qu'on voit mal comment ils peuvent rentrer en contact avec quoi que ce soit. Hein, sinon avec leur propre souffle, ce qui n'est pas très bon pour communiquer. Donc, on voit la paranoïa des militaires. On voit aussi ce qui est intéressant là dans le film, c'est que Denis Villeneuve insiste bien là sur ces passages à l'intérieur de ce camp et il circule à l'intérieur donc de couloirs qui sont en fait fermés de l'extérieur. Il y a une espèce de zone qui est isolé du monde extérieur, et ils vont arriver dans des salles où des médecins vont s'occuper d'eux, etc. etc. Mm-hmm. Tout ça fermé en quelque sorte par rapport à l'extérieur, hein, avec cette idée que le danger, c'est en quelque sorte ce que pourrait produire, hein, ce que pourrait produire ou ce que pourrait amener donc ces extraterrestres. Mm-hmm. Alors voilà, ce qui est intéressant, hein, ce qui est intéressant, c'est entre autres voilà toute cette paranoïa, qui, toute cette peur, etc. Et Louise Banks, en fait, à un moment donné, comprend que, en fait, tout ça ne fait que...
mettre de la distance.
Mettre de la distance. Tout ça construit des obstacles, mm-hmm. en plus de ceux qui existent, d'accord. Oui. Et à un moment donné, dans le vaisseau extraterrestre, elle va enlever
sa combinaison.
Donc, en effet, c'est un moment un peu tendu, un moment un peu crucial dans le film, mm-hmm. Dont on va parler dans un petit instant après un peu de musique.
D'accord.
Alors Alain,
oui.
Qu'est-ce qu'on vient d'écouter ?
Un morceau de Michael Galasso, scène 1. Voilà, ça correspond à certaines ambiances qu'on peut avoir dans le film à certains moments, je trouve.
Tout à fait, ouais. Oui. Donc si jamais Denis Villeneuve nous écoute, on lui conseille
d'utiliser de Michael Galasso
pour
ses prochains films.
On ne sait jamais, si vous voulez faire une suite à Premier Contact, Deuxième Contact, ouais. Hein, un contact galassien.
3 000 ans plus tard, oui.
Voilà. Tout à fait, ouais. Hein. Alors, on revient sur ce personnage de Louise Banks, qui est tout à fait étonnante. Hein, je dois dire que c'est un très très beau personnage. Quand elle arrive à l'intérieur de ce vaisseau spatial, elle est dans sa combinaison et elle comprend qu'il faut que, si elle veut se donner une chance, si elle veut donner une chance à l'humanité de rentrer en contact avec ses... Zectapod, hein, on est obligé de spoiler un peu le film, hein, désolé.
Oui.
Hein. Donc il faut qu'elle enlève cette combinaison. D'autant que ce qu'il faut dire quand même, c'est que ils sont séparés des Zectapods par
Hepta.
Oui,
sept pieds.
Hepta, oui.
Oui, c'est
pourquoi Hepta, qu'est-ce que je dis?
Hepta.
Ah non, Hepta. Oui, merci. Heureusement que tu es là. Là. Ils sont séparés des Zeptapodes par une vitre.
Ouais, par une paroi vitrée.
Par une paroi vitrée.
Parce que c'est pas la même atmosphère d'un côté et de l'autre la paroi.
Et ils pourraient pas survivre peut-être dans l'atmosphère terrestre. Et donc ils sont séparés par cette vitre. Alors tout ça évidemment est extrêmement intéressant. On va y revenir, hein, sur la forme du vaisseau, sur cette idée de la vitre, etc. Des écrans.
Il y a une gravité qui est particulière.
Voilà, on va revenir sur tout ça. Et aussi que d'une certaine manière, pour Denis Villeneuve, pour lui, c'est nous faire réfléchir aussi sur notre réalité. Mm-hmm. Hein. Donc on va revenir sur ces questions-là. Mais pour l'instant, en fait, je reviens sur Louise Banks. Elle comprend que déjà, il y a une séparation parce qu'ils viennent de notre monde, ils ont un autre langage, et qu'il faut essayer de rompre.
De réduire les distances.
Et donc, elle enlève sa combinaison, ce qui fait peur à tout le monde.
Oui.
Parce qu'ils se disent qu'elle va mourir.
Elle risque de mourir, en tout cas.
Ah, voilà. Donc elle prend un gros risque, et en fait c'est ce risque qui va permettre en fait l'échange.
Oui, le premier échange.
Un premier échange. Mmh. Alors, ces heptapodes, ils ont un moyen de communiquer qui est particulier. Ils envoient à travers leurs tentacules. Ah, ils ressemblent un peu à des pieuvres quand même.
Oui, hein. Des immenses pieuvres géantes de 5-6 mètres de haut.
Voilà, mais immenses.
5 mètres de haut, je pense.
Voilà. Ils communiquent donc en jetant de l'encre. Et cette encre va venir sur la vitre former des signes.
Oui, tout à fait, des signes circulaires qui agglomèrent des glyphes. Ouais.
Voilà. Donc, Louise Banks... Elle va commencer donc à rentrer en contact avec eux. Alors, il y a une image qui est évidemment très belle, qui est très symbolique. Elle va poser la main sur la vitre et c'est en quelque sorte le moyen de rentrer particulièrement en contact de manière physique avec les heptapodes, dans la mesure où, en même temps, de manière simultanée, elle et l'heptapode donc posent
la vitre.
Ouais. Voilà, sur la vitre, et sont en quelque sorte dans la même sensation, dans la même expérience du contact de la vitre. Hein. Donc ça, c'est particulièrement beau et particulièrement intelligent comme contact, mais aussi comme limite du contact. À partir de là, en fait, Louise Banks va essayer de comprendre en fait ce que ces extraterrestres essaient de dire.
Hein. Oui, elle comprend déjà que c'est une écriture, hein, que ce n'est pas une écriture phonétique, mais c'est une écriture, comment elle appelle ça, sémographique, c'est
ouais,
ça.
C'est ça.
C'est-à-dire qui ne retranscrit pas des sons, mais qui retranscrit du sens.
Voilà.
Un peu comme les idéogrammes chinois, je pense. Hein, c'est une retranscription du sens. Et à partir de là, elle va réussir à les décrypter, à comprendre comment fonctionnent les glyphes qui sont inscrits dans le cercle.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'en effet, elle et Ian Donnelly vont donc revenir plusieurs fois. Ils vont filmer.
Tout est filmé, photographié.
Et ils reviennent avec les signes en question. Ils cherchent à comprendre la signification.
Oui, ils ont établi une espèce de vocabulaire qui leur permet effectivement de commencer à échanger avec les heptapodes et à poser des questions.
Ouais. Et donc c'est à la fois très touchant et à la fois très beau, parce que bon, ces signes sont il y a une vraie beauté graphique esthétique de ces signes.
Et ils sont très étranges aussi. Tu te demandes, parce qu'ils ont un côté chaotique, mais en fait, c'est une espèce de chaos maîtrisé. Donc, tu ne sais pas très bien comment ça peut vraiment se lire, ce genre de choses.
Ouais.
Tu as l'impression que c'est quand même des espèces de tâches autour d'un cercle. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
On a l'impression
que ce n'est pas structuré, même si c'est structuré sur un cercle, que les tâches, etc., n'ont pas vraiment de structure. Or, cependant, ils arrivent à déceler des éléments structurants et donc à déceler du sens.
Alors, en effet, hein, ce langage de signes, il est mystérieux et en même temps envoûtant pour Louise Banks. Et on va voir que...
Il est central.
Il est absolument central pour non seulement communiquer avec les extraterrestres, mais en même temps pour arriver à se déplacer, pas seulement dans l'espace.
Mais dans le temps.
À tout moment, il y a près de 1500 extraterrestres sur notre planète, presque tous ici, à Manhattan. Ils sont presque tous convenables, ils ne cherchent qu'à se faire un peu de blé.
Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là.
Avez-vous déjà mis hors service un humain par erreur?
Non. Vous savez ce qui fait le plus peur dans la vie? Ne pas savoir votre place dans ce monde. pas savoir pourquoi vous êtes ici.
Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme.
Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection.